Bonsoir, chers auditeurs, auditrices d'Aligre FM. Nous saluons avec nous à la régie René Clancy, Bruno Mandefouria et Armand Gury. Vous êtes dans Chacun son tempo, l'émission qui donne la parole aux artistes singuliers, libres et authentiques. Et ce soir, c'est un invité très spécial que nous recevons, car c'est lui qui a l'habitude de les mettre en avant, les artistes. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France, mais aussi journaliste, réalisateur, auteur de nombreux documentaires et ouvrages. Et aujourd'hui, il nous revient avec son livre « La chanson française », un peu, beaucoup, passionnément. Une traversée du siècle en musique racontée par Martin Soudan aux éditions Le Robert. On découvre, entre les lignes, un hypersensible, hyper passionné, hyper amoureux de la musique, des chansons, mais surtout des artistes, des auteurs, de ceux qui, par leur regard, leur conviction et leur poésie, changent notre vision du monde et accompagnent ses transformations. Depuis 40 ans, il navigue entre les univers musicaux avec une curiosité insatiable et une passion toujours aussi dévorante. Il recueille les confidences intimes des plus grands et met en lumière ceux qui vont le devenir. Alors on peut le dire, il l'a changé lui aussi, notre monde.
Quand je suis loin de lui, quand je suis
Bonsoir Didier Varro.
Bonsoir et merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Je ne pouvais évidemment pas commencer cette émission sans Véronique Sanson.
Qui a Ça été... c'est gentil, vous me prenez par les sentiments d'entrée de jeu.
Je sais, c'est fait pour. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Elle représente ce qu'il y a de plus important quand on fait un peu le bilan de sa vie, même si je suis encore à l'âge où on voit devant, on regarde le futur, mais c'est vrai qu'elle représente, elle est constitutive de ce que je suis aujourd'hui. Sans Véronique Sanson, peut-être que je n'aurais pas fait ce métier, peut-être que je n'aurais pas apprécié les artistes qui sont arrivés dans les années 70, des auteurs, des autrices, compositeurs, compositrices, interprètes, qui avaient une autre exigence que les artistes des années 60. Qui faisait pour la plupart des adaptations de hits anglo-saxons, parfois de façon très, 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 très belle, mais en tout cas qui n'avait pas cette capacité à faire que la chanson française d'auteur puisse être à la fois une chanson qui mette l'accent sur le texte, mais aussi sur la production artistique, au même titre que les anglo-saxons. Et quand j'écoute dans les oreilles, pourtant celle-ci, je l'ai écoutée, je ne sais pas, des centaines de milliers de fois, peut-être plus que ça même. Je me dis toujours, mais la prod de cette chanson et de cet album, Amoureuse, de 1972, elle est incroyable, elle est intemporelle. C'est comme les grands albums d'Elton John, de Queen, de David Bowie, sont des albums de ce début des années 70 qui sonnent encore aujourd'hui de façon très, très forte et très puissante. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle a changé dans ma vie? Je suis tombé amoureux de cette voix. Après, comme je le raconte, j'ai voulu aller la voir sur scène, donc j'ai fugué quand même à 14 ans. Avec l'argent de poche et une partie que j'avais piquée dans le sac de ma mère pour faire un aller-retour entre Grenoble et Lyon pour aller la voir à la Bourse du Travail à Lyon où elle se produisait. Et c'était un émerveillement. Et puis je sentais intuitivement que cette femme était différente des autres artistes françaises ou même des artistes masculins. Elle avait une liberté féroce que j'ai ressenti sans connaître à l'époque sa vie, mais on sentait à la fois dans ses textes et dans ses pochettes, dans sa manière de se présenter, qu'elle était différente. Et cette liberté d'une femme qui gère son destin toute seule, en étant une grande amoureuse des hommes, ça m'a fasciné, ça m'a vraiment fasciné. Et puis son tropisme comme ça pour le danger, pour la vie rock'n'roll, C'est quand même pas banal, cette idée d'aller comme ça dire à son mec, je vais acheter des cigarettes et je reviens, de jamais revenir, de disparaître et d'aller se marier avec une des stars de la musique anglo-américaine. C'est romanesque.
Si on plante un peu le décor, donc vous grandissez à Pau dans les années 60, à quoi y ressemblait votre monde d'enfant?
Alors, je suis né à Pau, vous avez tout à fait raison, mais je n'ai pas grandi à Pau parce que mes parents déménageaient en fait tous les 4-5 ans.
C'était
Plutôt,
Grenoble après,
ah
c'est ça,
ouais, il y
ouais.
a eu, alors attendez, il y a eu
Ah,
Avignon,
ok.
il y a eu Le Puy-en-Velay, alors vraiment des villes ultra sexy, hein, je vous les recommande, et ensuite Grenoble, qui est vraiment la ville où j'ai passé le plus de temps. Et donc, c'est un intéressant votre question parce que j'avais un univers qui était en mouvement tout le temps. Par exemple, j'ai pas eu d'amis d'enfance. J'ai eu des amis sur le moment, dans ma petite enfance ou dans mon enfance, mais comme je partais après dans une autre ville, je perdais de vue ces amis-là. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas ni Internet, ni le téléphone portable, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui pour rester en lien. Donc, des univers changeants.
Ce qui a
Avignon,
fait votre force,
premier
ça.
souvenir, c'est Avignon quand même. J'ai
Oui.
4 ans. Et figurez-vous que j'habitais dans le HLM, 14 étages, dans lequel vivait également Mireille Mathieu. Donc, ça, c'est quand même assez romanesque parce que à ce moment-là, c'est un de mes premiers souvenirs d'enfant. Mireille Mathieu qui fait une parade dans les rues d'Avignon avec Roger Lanza qui était un présentateur ultra connu dans les années 60 parce qu'elle venait de gagner ce télécrochet Télédimanche qui a fait d'elle entre guillemets la nouvelle Piaf des années 60. J'ai jamais eu beaucoup d'intérêt pour la musique de Mireille Mathieu, mais ça me fait marrer parce que je me dis quand même, ses parents, elle avait, je sais plus combien, 7 ou 8 frères et sœurs, vivaient juste au-dessus de chez nous. Et dans l'école où j'étais, à l'école maternelle et à l'école primaire, j'entendais qu'il y avait les frères Mathieu qui étaient là, quoi, qui après sont devenus un peu des petites stars puisque leur grande sœur était devenue une vedette de la télévision. Donc ça, c'est un premier souvenir. Et puis après, ben, au Puy-en-Velay.
Est-ce que vous étiez un rêveur?
Oui, et surtout, je pensais avoir. Enfin, j'avais une vocation qui
Ouais.
était de faire de la danse. Je voulais être danseur. Donc, je suis un danseur frustré. Je ne suis pas un musicien frustré. Je n'ai jamais fait partie d'un groupe, contrairement à plein de journalistes qui ont tous eu un groupe à
Ouais.
l'adolescence ou qui ont eu envie de faire de la musique. Moi, pas du tout. Je voulais être danseur et j'ai quand même fait 10 ans de danse classique. Donc, ça a été important et donc ça m'a fait rêver. Le spectacle me faisait rêver. Je me souviens des représentations fin d'année, que ce soit au théâtre municipal du Puy-en-Velay ou au théâtre municipal de Grenoble, où je dansais. Donc, il y avait ce truc qui me faisait rêver, la scène, les lumières, les applaudissements, tout ça me plaisait beaucoup. Et puis, il y avait un autre truc qui me faisait rêver, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la radio. Ça, vraiment, ça a été constitutif de ce que je suis aujourd'hui. La radio a été mon meilleur partenaire, mon meilleur ami ou ma meilleure amie, ma dame de compagnie, celle qui m'a éduqué à la musique, mais aussi à la politique, au monde, parce que j'adorais la radio. Alors, chez mes parents, il y avait la radio qui était branchée le midi, on écoutait le jeu des 1000 euros qui s'appelait le jeu des 1000 francs. Et puis à 13h, il y avait toujours les infos. Mon père zappait entre Europe numéro 1 et France Inter. Et moi, dès que j'ai pu, j'ai demandé à mes parents une radio portative. Et j'écoutais tout le temps la radio. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'imaginais réellement pas qu'un jour je ferais de la radio. Franchement, pour moi, c'était inimaginable. Fils de province. Fils de Français moyen, je me disais, bah, Paris, c'est une ville inaccessible. Et puis, je me suis renseigné hein, à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, est-ce qu'il y avait des écoles pour faire de la radio? Il n'y avait pas d'école, donc il fallait être journaliste. Mais moi, ce n'était pas vraiment être journaliste, c'était être animateur de radio, faire partager mes goûts musicaux. Je me suis dit, mais comment on fait? Donc, il faut connaître. Il faut habiter Paris, puis il faut connaître des gens. Donc, c'était pour moi totalement inaccessible. Et donc, voilà, mon imaginaire mes rêveries, elles venaient de la radio, et surtout la nuit ou le soir, où finalement, comme mes parents ne voulaient pas qu'on regarde la télé, ben, je m'enfermais dans ma chambre et j'écoutais la radio. Et je zappais. Et j'essayais déjà de voir la différence entre les playlists de France Inter, d'Europe Numéro 1, de RTL, de Radio Monte Carlo.
Ah oui, c'était déjà très étudié.
Et j'avais, ouais, et puis j'avais même chopé les ondes moyennes et j'écoutais la BBC. Et j'écoutais le Top of the Pop sans comprendre forcément très bien l'anglais, mais j'écoutais ça aussi. Donc, ouais, c'était mon terrain de jeu. Et puis alors, quand j'écoutais pas la radio, je jouais. Alors, il y a des gens qui jouent à la marchande ou qui jouent. Moi, j'avais mon émission de radio. Ma radio s'appelait Radio Plus et je faisais des émissions tout seul. Mais je parlais à des auditeurs fictifs. Donc, ouais, c'était un vrai truc pour moi, la radio. J'ai quand même eu une sacrée fée conductrice au-dessus de moi pour m'amener vers ce destin-là. Parce que franchement, quand je suis venu à Paris, quand j'ai voulu quitter Grenoble pour aller à Paris, j'ai dit, bon, ben, je vais poursuivre mes études d'histoire et puis je deviendrai prof comme mon frère aîné. Et puis voilà, ce sera mon destin. Et puis j'aimais bien transmettre. Donc comme j'aimais l'histoire et la géo, je me disais, je serai prof d'histoire géo. Mais en fait... Dès que j'ai senti un signe du destin pour m'attraper, pour me porter dans un studio qui ressemblait à peu près à celui-ci, ben je l'ai saisi. Et après, j'ai plus lâché, par contre.
Il y a eu des rencontres très importantes sur votre chemin. Vous parlez de Jean-Louis Foulquier, d'abord. Et puis, il y a eu un autre mentor, c'est Daniel Balavoine, qui a beaucoup compté pour vous. Et les mieux placés pour lui rendre hommage, c'était France Gall et Michel Berger.
Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
Vous êtes en direct sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Didier Varro. On vient d'écouter Évidemment, c'est un titre qui a été écrit, composé par Michel Berger à la disparition de Daniel Balavoine. Qu'est-ce qu'il vous a transmis ?
Alors lui, il était dingue. D'abord, je l'ai découvert dans les années 70 avec un album qui s'appelait Les Aventures de Simon et Gunther, qui était donc un album concept autour de la séparation de deux frères qui sont séparés le jour où le mur de Berlin est érigé. Et c'est un album concept assez inspiré de tous ces albums concept rock anglo-saxons de l'époque. Et ça m'avait saisi et incroyablement collé au mur. Et je me souviens que on parlait beaucoup de musique au lycée et que quand je parlais de cet album et que j'ai essayé de le faire découvrir à mes copines et mes copains, ils me disaient mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? Comment il chante ? C'est insupportable ! Puis qu'est-ce qu'il nous raconte ? On n'en a rien à foutre du mur de Berlin, mais c'est absurde. Donc j'ai un peu ramé quand même dans mon admiration originelle. Et puis il y a eu cet album qui s'appelle Le Chanteur, qui a vraiment fait exploser Daniel Balavoine en même temps que Starmania. Et là, j'ai vu que les choses commençaient à changer. Mais c'est comme un peu Véronique Sanson. Moi, je sentais que ce type était un enragé, un révolté. Il suffisait d'écouter ses textes, ses albums, de faire un album comme ça à 30 balais sur 12 chansons autour de la tragédie du mur de Berlin, sur la guerre froide et tout. Il fallait quand même le faire avec cette envie d'être quand même accessible et populaire. Et en fait, j'ai vraiment suivi Balavoine presque comme un fan, quoi. J'adorais. Et le jour où il s'est opposé à Mitterrand en 1980 à la télévision, bon, évidemment, émission qui est devenue cultissime aujourd'hui, j'étais super fier parce que tout d'un coup, tous mes potes qui m'avaient foutu à l'amende parce que j'avais aimé Balavoine en 77 me disaient « Putain, mais en fait, le mec, il est énorme, quoi. Il vient de se faire Mitterrand en direct. » C'était en 80, avant que François Mitterrand accède à la présidence de la République. Et c'était un discours qui était tellement en synchronicité avec ce que nous, on pensait... jeunes filles et jeunes garçons de 17-18 ans qui attendions une alternance, qui attendions une autre vision de la politique et tout ça. Donc ça a été très fort. Et quand je l'ai rencontré la première fois, c'était romanesque parce qu'il venait de faire une émission qui s'appelait 7 sur 7, qui était une émission emblématique des années 80, où il avait dit face caméra, j'emmerde les anciens combattants. Et j'emmerde tous ceux qui pensent que je les emmerde. Et donc, évidemment, ça avait fait, encore une fois, comme son intervention face à Mitterrand, polémique. Il y avait eu toute la semaine des sujets. Daniel Balavoine doit s'excuser. Il va chez Michel Drucker présenter son album Loin des yeux de l'Occident. Et ma première rencontre avec lui, c'est dans les loges du pavillon Gabriel où Drucker enregistrait son émission Champs-Élysées. Et là, je rencontre un artiste qui était comme un volcan en éruption, quoi. Parce que Drucker insistait, disait « Daniel, il faut que tu t'excuses demain soir en direct. » C'était la veille, hein, il faisait ses répétitions la veille. « Vraiment, fais-le parce que c'est important pour ta carrière, etc. Et » Et je rencontre Balavoine qui me dit « Ils me font tous chier, là, à vouloir que je m'excuse, je ne retirerai pas. » Bon. Et puis il disait « Bon, je vais quand même peut-être le faire parce que franchement, j'ai pas non plus envie de sacrifier ma carrière pour un coup de gueule qui était censé, mais j'essaierai de m'excuser en expliquant ce que je voulais vraiment dire sur le moment. » Et en fait, on s'est rencontrés et c'était un coup de foudre. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir un tuteur en face de moi, quelqu'un qui m'a appris la politique, le monde, la manière de produire les disques, comment il fallait regarder la production française dans les 20 prochaines années. Et voilà, ça a été un coup de foudre professionnel qui s'est prolongé de 83 à 85, où on s'est vu, je sais pas, 6 ou 7 fois, à des occasions très différentes et à des moments très importants pour l'histoire de la chanson, dont je parle dans le livre, notamment au moment de Chanteurs sans frontières, évidemment après ce coup de gueule, ce qui me permet de revenir aussi à l'histoire qu'il a eue avec Mitterrand, puisque Balavoine a fait la première partie de Mitterrand pendant sa campagne électorale de 1981. Et puis cet album, Sauver l'amour, qui a été extrêmement important, son départ pour l'Afrique, et puis sa disparition brutale sur un engagement. Et voilà, il a été extrêmement fondateur. Et c'était quelqu'un de visionnaire. J'avais déjeuné avec lui en 1985. Juste après avoir écouté son nouvel album qui s'appelait Sauver l'amour, qui sera donc son dernier album, et il me parlait de politique, parce qu'il adorait la politique, et il me dira « Tu verras, en 85, hein, Mitterrand va perdre les élections l'année prochaine, on va avoir une cohabitation, alors qu'à l'époque les gens disaient « Non, la cohabitation n'existera jamais, la Ve République ne pourra pas supporter une cohabitation, Mitterrand sera obligé de démissionner. Tu verras que le Front National va continuer son ascension, et tu verras qu'en 88, Mitterrand sera réélu. Il va se représenter et c'est grâce à la cohabitation qu'il sera réélu en 88. À l'époque, je mets quiconque au défi. Tout le monde disait qu'en 86, avec la défaite des législatives, Mitterrand était soit démissionnaire, soit effectivement finirait son mandat affaibli et que le prochain président de la République serait un président de la République nommé Jacques Chirac. Donc c'est dingue. Voilà, donc ça vous marque des choses comme ça. Et puis, évidemment, je repense toujours à... Je crois que j'ai fait sa dernière interview en France avec Jean-Louis Foulquier, dont vous parliez tout à l'heure, en décembre 1985, sur l'album Sauver l'amour, qui était un carton absolu. L'Aziza était numéro 1 au top 50. J'avais un Balavoine qui était heureux parce qu'il était regardé, enfin considéré aussi par... des gens qui l'avaient un peu snobé, comme mes copains m'avaient snobé dans les années 70. Lui, il avait aussi des journalistes qui continuaient à penser que c'était un chanteur de variété. Mais là, les choses étaient en train de changer. Il était adoubé par Peter Gabriel. Il allait partir en Angleterre enregistrer un album avec des Anglais. Et voilà, j'ai ce souvenir de nous deux sur les marches de la maison de la radio en décembre, juste avant les fêtes de Noël, où on n'arrivait pas à se quitter. Et il me dit à la fin, bon, on va boire un coup, on se quitte. Et je lui dis, bah, on va y aller là, peut-être. Il me dit, bon, bah, alors on se retrouvera au mois de mars, tu viendras écouter les maquettes de mon album anglais à Biarritz, parce qu'il faut que tu connaisses cette ville que tu ne connais pas. Et le 14 janvier, il disparaissait dans cet accident tragique. Donc, pour moi, c'est des souvenirs très forts qui restent ancrés.
Il y a eu un moment important aussi, en 1994, un tournant dans l'histoire du rap en France avec cet artiste.
Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, l'as de trèfle qui pique ton cœur, l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur.
C'était Caroline de MC Solar. Donc, est-ce que vous voulez nous raconter ce moment où vous avez fait ce discours à la SACEM?
Mais oui, parce que en fait, après avoir fait presque 10 ans de radio, un peu moins de 10 ans de radio, à la fois sur la dans les radios libres, sur Fréquence Gay, puis après sur France Inter, en 91, je suis appelé à devenir directeur artistique dans une maison de disques qui s'appelle Polydor. Et j'arrive dans un label qui est totalement déserté, traumatisé, parce que le patron très emblématique de ce label venait de partir, avait créé un nouveau label, était parti avec les artistes emblématiques du label, enfin ceux qui... À l'époque, c'était Vanessa Paradis, entre autres.
C'était Marc Lombroso.
Ouais, c'était Marc Lombroso, l'éditeur de Jean-Jacques Goldman. Et donc, du coup, voilà, c'était un label génial, mais où les gens étaient un peu traumatisés parce qu'ils avaient perdu un peu leur mentor. Et donc, on me dit, voilà, il va falloir que tu remontes un peu le moral des troupes. Et puis, il va falloir aussi que tu t'occupes de ce petit jeune. Là, on a signé un 45 tours, on vient de lever l'option sur un album, c'est MC Solar. Et MC Solar, moi j'avais écouté le premier 45 tours, Bouge de là, qui avait eu un très beau succès d'ailleurs, y compris sur Énergie. Le single était passé sur Énergie. Et j'ai dit, ah mais c'est génial, MC Solar, mais mortel et tout. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé face à un monde qui n'était pas le mien, qui était celui du rap, que peu de gens connaissaient très honnêtement à l'époque. Et ça a été une histoire incroyable parce que Solar m'a permis à la fois de me connecter à cette nouvelle stylistique primitive qui était le rap. M'a tout de suite fait prendre conscience que la chanson française allait être secouée et qu'elle allait être secouée dans le bon sens. M'a évidemment amené très vite à écouter IAM, NTM et tous ces rappeurs qui sortaient un peu de partout et qui étaient signés, pour la plupart d'ailleurs, dans des majors compagnies à l'époque. Et de voir à la fois l'attraction irrésistible que Solar sollicitait chez les gens. Tout le monde le voyait un peu comme une espèce de Gainsbourg Black qui arrivait avec la même nonchalance, la même force dans l'écriture. Mais en même temps, il y avait toujours les tenants du vieux métier qui disaient « Mais non, mais c'est pas de la chanson, ça. C'est du rap, mais c'est comme les gens avec qui je vais avoir affaire après qui me disaient « Bah, la techno, c'est pas de la musique. » Bah, c'est pareil. Le rap, c'était pas de la chanson. Et moi, je disais « Mais s'il y a bien une musique qui est de la chanson et qui revitalise la chanson et qui parfois même prend les fondamentaux de la culture patrimoniale française, ce qui était le cas de Solar, qui était vraiment dans la lignée aussi des Gainsbourg, des Aznavour, des Gréco, de ces grands plumitifs poètes de la rime, et bien, il y avait quand même des tenants de l'ancien monde qui disaient « Mais bon, c'est pas de la chanson, quoi. » Ben, c'est quoi la chanson? On a la même chose avec Aya Nakamura, je le raconte aujourd'hui dans un autre chapitre. Et en fait, on lui a remis le prix Raoul Breton. Et le président de la SACEM, qui était Pierre Delanoë, qui avait écrit pour tous les grands artistes de la chanson patrimoniale, et notamment qui était un des grands complices de Gilbert Bécaud, s'était un peu insurgé en disant « on ne peut pas remettre le prix Raoul Breton à MC Solar ». Alors il y avait un peu de racisme, déjà, basiquement, je pense, voilà. Et puis un monde qui n'était pas le leur, qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, le jour de la remise de prix, Solar n'est pas là. Delanoë ne peut pas s'empêcher de faire une petite pique sur le fait qu'on va remettre le prix Raoul Breton à Solar et qu'en gros, Raoul Breton va se retourner dans sa tombe. Et donc, je prends le micro à ce moment-là pour remercier évidemment la SACEM qui lui remettait ce prix, l'audace de lui remettre ce prix qui était dans la filiation de MC Solar, et de dire pour peut-être tacler un peu cette forme de racisme que je sentais lancinant derrière tout ça, ouais, ces jeunes de banlieue qui vous font peur et qui volent des mobilettes, eh bien aujourd'hui, ils peuvent voler des dicos dans les librairies, et ça, c'est quand même vachement mieux que de voler des mobilettes. Et c'était un peu une rime et une punchline à la Solar, mais c'était ça, parce que ce qu'il faut quand même dire, et qui est encore d'actualité 30 ans plus tard, c'est que sans le rap, la chanson française, probablement, n'aurait pas survécu. Ça a fait bouger les lignes, ça a mis un coup de pied au cul à tous les artistes, tous les auteurs de la chanson traditionnelle, qui se sont dit « il faut continuer à bien écrire ». Et à jouer avec les mots, avec la langue, avec des références, ce que faisait Solar, ce que faisait NTM, ce que faisait IAM, et ce qu'ont fait par la suite des générations successives de rappeurs. Et donc, c'est une forme de chanson qui n'est pas la chanson, mais qui, en tout cas, revitalise la culture de la chanson française.
Mais vous l'avez senti tout de suite, et comment est-ce que vous faites pour rester toujours ouvert, pour vous laisser bousculer en permanence par la musique?
Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que je déteste les bourgeois et je déteste l'ordre établi. En fait, et c'est pas par jeunisme, hein, pas du tout. Je n'ai pas cette vitalité de la nouveauté qui serait due à essayer de rester jeune malgré tout. Parce que ça s'appelle le jeunisme et ça correspond à pas grand chose, mais c'est l'attrait de la remise en question. Je pense que si on veut avancer dans sa vie personnelle, qu'on soit animateur de radio ou qu'on soit à la banque ou professeur, j'aurais été pareil si j'avais été prof. Je me serais dit, mais comment je peux intéresser des générations qui arrivent et qui n'ont plus les mêmes codes sociaux de communication. Enfin, franchement, c'est d'ailleurs voilà, et il faut se re-questionner, se remettre en question tout le temps et avoir un appétit pour la découverte. Probablement aussi, c'est dû en posant cette question. Je me souviens aussi que moi, j'étais tout petit dans les années 60. Et j'entendais bien, par exemple, que même Johnny Hallyday à l'époque, pour les vieux, pour les adultes, les croulants, comme disaient les jeunes des années 60, c'était dangereux, c'était sulfureux, c'était pas de la musique, c'était pareil, hein, il y a eu cette même stigmatisation. Et que probablement que ces histoires, ce regard un peu condescendant des adultes sur... l'appétit de la jeunesse m'a toujours gonflé, quoi. Et c'est vrai aussi que j'ai toujours eu cette curiosité, parce que sinon on s'ennuie très vite. Si j'avais pas rencontré la musique électronique, qui est une autre claque pour moi qui a été vraiment décisive et qui n'a rien à voir avec la chanson et qui est très peu présente dans ce livre, mais je pourrais en parler. C'était pareil le jour, la première fois où je suis allé dans une rave. Bah, je me suis dit, bah, je n'ai pas vécu Woodstock, mais je vis ma propre révolution à 30 ans, qui est une révolution de l'utopie, mais qui est en même temps une révolution vraiment sociale, qui remettait en question tous les codes établis de la société des années 90-95. Et c'était pas que des histoires de drogue et de lieux clandestins. Les porteurs de la culture techno, ils remettaient en question l'industrie musicale majoritaire, ils remettaient en question les majors, ils remettaient en question une forme de capitalisme, ils remettaient en question le modèle du CD qui était dominant et qui a écrasé le vinyle. C'est grâce à la techno que le vinyle est resté en souterrain et puis aujourd'hui reprend. Voilà, le fait de dire bah, un morceau ne fait pas forcément 3 minutes, il peut faire 7 minutes, 8 minutes, 12 minutes. Le fait d'être en appétit pour changer les tempos, le fait de faire aussi de chaque DJ set un moment d'utopie collective. Tout ça, c'est très important. Donc oui, dans les années 90, en même temps que le rap, je découvre ça et ça va m'aider à rester en appétit pour découvrir une nouvelle chanson française dans les années 2000 et 2010. Si j'étais resté coincé à écouter Michel Jonas, Alain Souchon, Véronique Sanson, qui sont les artistes que j'ai aimés et qui m'ont construit, bah, je ne serais pas derrière ce micro aujourd'hui. Ça, c'est sûr, c'est sûr.
La musique, elle dénonce, elle libère, c'est ce qu'on comprend tout au long de votre livre, et elle rassemble aussi, elle console. Et le 21 février 2024 a lieu la panthéonisation du couple Manouchian. Vous êtes devant votre télé et vous découvrez ça.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Les doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Uniforme du givre, à la fin février, pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Alors, la panthéonisation du couple Manouchian, déjà, c'est en soi un événement, puisque je crois que les premières demandes de panthéonisation du couple Manouchian et des résistants qui étaient et de la reconnaissance des résistants qui étaient sur cette affiche rouge, qui étaient tous des immigrés et qui avaient lutté contre le nazisme aux côtés des Français. C'était presque devenu une quête inaccessible. Et le moment où ça a été décidé par Macron, le président Macron, finalement, on n'y croyait presque plus. Enfin, je sais que beaucoup de militants pour cette cause de reconnaissance, parce que la panthéonisation, c'est la reconnaissance de la nation, c'était un moment très fort. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un des présidents les plus détestés de l'histoire de la Ve République qui prend cette décision. Et donc à ce moment-là, il y a tout qui rejaillit. Il y a le fait que enfin ça arrive après des polémiques et des polémiques sur le fait de faire entrer aussi un des Arméniens, des communistes, dans ce lieu sacré de la République, sacré mais laïque. Et puis il y a donc cette cérémonie qui est presque un film en noir et blanc avec cette pluie qui semble être glaciale, qui a détrempé les gens, les drapeaux, les cercueils. Il y a une sorte de solennité et puis la prise de conscience de la nation que ce moment est historique, réellement historique, dans une France qui est complètement fracturée avec un racisme rampant, un Rassemblement national aux portes du pouvoir. Et tout d'un coup, il y a ce jeune groupe, Feu Chatterton, sur l'estrade qui est devant le Panthéon, qui entame cette version qui est presque chamanique. Alors, il y a la version de Léo Ferré, qui était... pour les fans de Léo Ferré et d'Aragon, un titre important, mais qui c'est pas un tube, hein, on l'entendait pas, l'affiche rouge, on l'entend pas sur Nostalgie comme Avec le temps ou d'autres chansons de Léo Ferré. C'est une chanson politique, c'est une chanson de résistance, c'est une chanson qui est portée en plus par un anarchiste qui a conchié tous les pouvoirs, même s'il roulait en Rolls et qu'il vivait à Monaco. Et du coup, à ce moment-là, cette chanson, elle appartient plus à Aragon, elle appartient plus à Léo Ferré, elle appartient à ce groupe que le grand public n'a pas identifié. Et il se passe un truc absolument magique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a le sentiment, pendant les 4-5 minutes où dure cette chanson, que le pouvoir sorcier du moment a envoûté la nation entière, et la nation entière, pour le coup, à ce moment-là, est reconnaissante et résistante. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai, que la France a été collaborationniste. Et ce moment-là, il transcende les polémiques du moment, il transcende la décision de Macron, il transcende la figure... polémique de Léo Ferré, et ça devient un moment d'histoire et de réparation. Et moi, je n'ai évidemment pas vécu la guerre, j'ai senti toujours de façon intuitive, avec mes parents qui sont des enfants de la guerre, qu'il y avait quand même beaucoup de non-dits encore sur cette période-là, même si évidemment l'histoire a fait son travail et les historiens ont fait leur travail. Mais tout d'un coup, on est au-delà du travail des historiens. On est dans un moment de célébration populaire. Et effectivement, j'ai eu cette phrase devant ma télé. J'ai dit, la chanson fait nation. Et moi, j'étais content que la chanson fasse nation parce que je le pense réellement. Et ça m'a permis de dérouler l'histoire de toutes ces chansons qui ont été des moments de réparation très forts. Juste après l'exemple de Feu Chatterton, je donne l'exemple de ce qui s'est passé dans la cour des Invalides après les attentats du mois de novembre, dont on célèbre tristement le 10e anniversaire. Et pareil, on a vécu une semaine, enfin plus même, des semaines de cauchemars, de tristesse, de colère, de voilà, on se demandait quel sens avaient nos vies après une telle tragédie, et de voir tout d'un coup trois femmes de cultures différentes dans la cour des Invalides chanter Quand les hommes vivront d'amour, c'est un moment de réparation. On voit même le président Hollande, qui était toujours un président qui n'essaie pas de transparaître ni sa joie, ni sa tristesse, qui là est rattrapé, presque suffoqué par un sanglot. C'est au moment où c'est Nolwenn Leroy, Yael Naïm et Camélia Jordana entonnent cette chanson. C'est des moments d'une force incroyable et de réparation. Et en fait, ça, on peut le... Il y a plein d'exemples. Alors après, je donne évidemment l'exemple des chansons caritatives, qui dans l'histoire de la chanson étaient importantes, puisqu'elles ont pallié à la déficience du politique, à un moment où les politiques laissaient l'Afrique mourir d'une famine inexorable. Les politiques ne faisaient rien, ce sont les artistes, Bob Geldof en France, en Angleterre, Balavoine et Berger Égal et Renault en France, Michael Jackson, Lionel Richie et d'autres aux États-Unis, qui ont dit, puisque les pouvoirs publics sont incapables de pouvoir régler cette solution, on va le faire par des chansons et par ce côté de collectif, de faire nation autour d'une cause et d'essayer de donner de nouveau un sens à l'action politique. Et ça, alors évidemment, il y a plein de chansons que j'ai presque même oubliées qui vont dans ce chapitre. Et notamment, je suis un peu énervé de ne pas l'avoir écrit. Et ça va peut-être vous faire marrer, mais j'étais pas à la fête de l'UMA cette année, mais on m'a raconté ce qui s'est passé à la fête de l'UMA. À un moment, il y a Gauvin Serres qui était sur scène avec un collectif sur les chansons engagées. Et ils se sont mis à reprendre Les Corons de Pierre Bachelet. Et il paraît que là, il s'est passé un truc, mais chamanique. 80 000 personnes. C'est donc tout le peuple de gauche qui, tout d'un coup, a repris cette chanson, qui est aussi l'hymne du RC Lens et qui, à chaque mi-temps du RC Lens, est repris, qui a été adoubé par Renaud dans les années 90 quand il a tourné Germinal, en chantant avec les mineurs qui étaient figurants dans le film de Berry. Et en fait, cette chanson qui était une chanson un peu de merde, je le reconnais, dans les années 80, Pierre Bachelet, c'était Elle est d'ailleurs, c'était cette chanson, et je disais, mais vraiment, on a Étienne Dao, on a les Rita Mitsouko, on a Niagara, on a des trucs, et puis il y a quand même les Corons, quoi. Et en fait, on ne perçoit pas à ce moment-là, même si cette chanson est un immense succès, qu'elle va devenir le ciment de la mémoire ouvrière française. Et que 30 ans ou 40 ans plus tard, elle est entonnée par 80 000 personnes à la fête de l'UMA dans cette période quand même très compliquée pour la gauche. Et voilà, donc ça, c'est des chansons qui font nation. Et donc, s'il y a une deuxième édition du bouquin, je mettrai Les Corons de Pierre Bachelet.
Il y a une autre chanson aussi, un autre moment assez bouleversant. Après, on arrête les chansons tristes.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous
d'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma garde les portes rêvées, mon amour, puisque tu m'aimes.
Vous êtes en direct sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Didier Varro. On vient d'entendre Céline Dion au JO. Si on remonte encore dans le temps et qu'on revient en 1995, vous étiez chez Columbia et vous recevez à ce moment-là le disque de Céline écrit par Goldman. Vous dites que le succès est mystérieux et injuste, mais est-ce que quand même on ne sent pas à ce moment-là qu'il va inévitablement se passer quelque chose ?
Il va se passer quelque chose, mais à ce point-là, on ne l'imagine pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même le dire, Céline Dion est totalement ringarde à l'époque pour les Français. C'est un des rares pays où Céline Dion n'arrive pas à rencontrer son public. Donc ça a été très, très compliqué pour elle d'arriver à devenir légitime. Et effectivement, quand cet album... signé et produit par Goldman arrive en 95, bah j'entends un truc qui, oui, va déboîter un peu. Mais personne n'imagine qu'il y aura quelques années plus tard plus de 10 millions d'albums vendus, dont plus de 4 millions en France, ce qui est considérable. Mais c'est marrant parce que c'est voilà, moi je me souviens de la chef de projet de Céline Dion qui racontait que pendant des années, quand Céline Dion arrivait à Paris, personne ne voulait aller la chercher, qu'il n'y avait pas de taxi pour elle, qu'elle y allait avec sa petite Austin, la chercher à Roissy, que, voilà, que le chemin a été quand même pavé de roses, mais avec des épines, quoi. Et voilà, et c'est vrai que cette version... qui est très lié au JO, bah c'est pareil, c'est un moment où la chanson fait nation aussi. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, il y a eu cette parenthèse enchantée autour des JO, où le sport, on a vu une chose qui est manifeste, que le sport et la musique qui arrivent à ressouder un peu le tissu social. Et même si les places au JO étaient chères, hein, et qu'il fallait quand même, mais on voyait bien. Et on le voit avec le foot, on le voit avec les grandes compétitions sportives. Et là, on a vu, pendant les JO, les deux disciplines, les chansons qui devenaient presque aussi importantes que les moments d'exaltation dans les stades, qui auraient pensé que la chanson de Joe Dassin, Les yeux d'Émilie, qui n'est quand même pas une chanson exceptionnelle, deviendrait comme ça un hymne quasiment dans tous les stades et dans tous les lieux olympiques. Alors, elle l'était dans les stades de rugby déjà un peu, voilà, ou le Que je t'aime de Johnny, ou c'est assez marrant de voir tout d'un coup ces chansons qui ressoudent un peuple. Et donc Céline Dion au sommet de la Tour Eiffel, c'est marrant. Moi j'ai gardé une image que j'arrive plus à choper, c'est celle d'un jeune couple, ils ont quoi, 25-26 ans, hyper branchés, qui apparemment sont pas du tout Céline Dion compatibles, et qui regardent ça, qui voient ça, et qui font ils sont détrempés, ils sont au bord de la scène, et ils font bon, allez, d'accord, et ils se mettent à pleurer, quoi. Et donc ça, c'est des moments de grâce ultime.
Vous avez une relation particulière aux artistes depuis toujours. Qu'est-ce qui fait que vous connectez aussi facilement avec eux ? Est-ce que c'est votre goût pour l'intensité ? Est-ce que c'est votre hypersensibilité ? Pourquoi est-ce qu'ils vous font autant confiance ? Est-ce que vous les comprenez mieux que personne ?
Ouais, peut-être que je les comprends. Je ne suis pas un artiste frustré, donc, mais oui, j'ai cette hypersensibilité qui fait que j'ai la sensation de les comprendre, que c'est un métier extrêmement... où il n'y a que le sensible qui est en jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est hyper fatigant d'être dans le sensible tout le temps. C'est pour ça que j'ai créé un festival qui s'appelle Hyper Weekend. Le hyper, pour moi, est un préfixe qui résume assez bien toute ma vie, qui s'est construit hors du raisonnable. Je n'arrive pas à... Parce que franchement, hein, je pourrais aujourd'hui me satisfaire de ce que j'ai accompli. Et là, vous ne pouvez même pas savoir. Donc, on boucle la programmation de l'Hyper Weekend Festival, qui est vraiment une programmation qui, à mon sens, va encore provoquer des belles rencontres avec le public. Il y a des prises de risque, il y a des trucs qui sont encore à ce stade pas très raisonnables. Mais cet après-midi, je me disais, ah, mais pourquoi je n'ai pas programmé Petite Sœur, qui est un artiste trans qui fait du rap. Je me dis, mais alors que là, la programmation est complète et j'ai toujours envie d'aller pousser les murs pour que l'émotion et la remise en question, justement, soient tout le temps au cœur de mon action. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça qu'ils m'aiment bien, qu'ils me font confiance. Peut-être aussi simplement parce que j'ai un profond amour pour et un respect. Moi, il n'y a pas de... Alors évidemment, vous avez compris que je suis plus intéressé par Juliette Armanet ou Zao de Sagazan que par Mireille Mathieu, mais je respecte aussi des genres qui sont parfois méprisés parce qu'ils racontent... l'histoire de Bachelet, c'est ça, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais été un peu méprisant. On est souvent cons hein, quand on est jeune. On peut l'être à 30, à 40 et à 50 ans, je vous rassure. Mais en tout cas, je me suis dit, à l'époque, franchement, parce que j'ai dû me foutre de sa gueule plus d'une fois sur l'antenne de France Inter, Pierre Bachelet, et je me dis, ne serait-ce que parce qu'il a commis une chanson qui aujourd'hui est le symbole de la mémoire ouvrière du peuple français et de cette mémoire minière, ne serait-ce que pour ça, il mérite plus que ma considération. Puis après, je découvre que Pierre Bachelet, en fait, il a fait des BO, il a fait de la musique électronique un peu avant Gainsbourg, il a fait des BO de films de cul. Enfin, c'est un personnage plus complexe qu'on l'imagine. Et c'est souvent ça avec plein d'artistes qu'on peut... qui nous touche pas, mais voilà, peut-être qu'ils sentent tous qu'au bout du bout, je les respecte et je les admire aussi. C'est aussi ça, c'est que ma capacité d'émerveillement dont vous parliez tout à l'heure, c'est une capacité à admirer toujours et encore les artistes.
C'est ma dernière question parce qu'on va devoir se quitter. Alors,
j'ai trois minutes.
Vous avez même pas une minute.
Pourquoi ?
Parce qu'on va se quitter avant. Ouais. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'industrie ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est sacrément libérée ou elle est encore trop conservatrice ?
Alors, il y a deux choses, mais je regarde la pendule, je ne vous regarde pas. Il y a à la fois une capacité aujourd'hui de création et de créativité qui est hors norme. Qui correspond peut-être à ce moment de crise sociale et politique dans laquelle on est. Et franchement, moi, j'adorerais avoir 20 ans aujourd'hui pour avoir à juger et à transmettre tout ce que je reçois tous les jours. Il y a des artistes formidables qui arrivent et puis il y a une production qui est beaucoup plus phénoménale que quand moi, j'avais 20 ans et que je démarrais dans ce métier. Et puis, il y a un autre versant qui est un versant très négatif, c'est la libéralisation de la musique à outrance, les plateformes de streaming, l'intelligence artificielle, le capitalisme qui défigure absolument toutes les logiques et la logique industrielle qui malheureusement met en péril la diversité musicale et c'est source de beaucoup d'inquiétudes. Alors c'est génial hein, les plateformes de streaming parce que on peut dévorer la musique qu'on n'avait pas la possibilité de dévorer avant, mais la logique derrière, elle est beaucoup plus préoccupante, la logique algorithmique, la logique de l'intelligence artificielle qui fait qu'aujourd'hui il y a quand même 10% des titres, voire 15% des titres sur les plateformes de streaming qui sont issus de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, la logique libérale toujours, qui fait que la diversité est menacée partout.
Merci Didier Varro.
J'ai tenu.
Ouais,
c'est bon.
Je remercie la régie, René Clancy, Bruno Mandé-Fourriard, Manguri. Je remercie également Solène Papeau et Anaïs Hervé de l'agence La Bande. On va également remercier Martin Soudan, avec qui,
oui.
Qui a recueilli toutes ces histoires.
Vous voyez, il était à votre place, il écoutait et puis il notait.
On dit que ce sont les passions qui nous choisissent, alors nous on se réjouit que la musique vous ait choisi. Quand vous découvrez les Rita Mitsouko en concert en 82, vous dites de Marcia Baila que le monde entier est contenu dans cette chanson. Alors on va se quitter avec ce titre, un peu comme pour trinquer ensemble à l'amour de la musique. Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.